Chapitre 18. Principalement dévoué à des affaires d'intérêt et à l'avantage temporel de Dodson et Fogg. Réapparition de M. Winkle dans des circonstances extraordinaires. La bienveillance de M. Pickwick se montre plus forte que son obstination. Job Trotter, sans rien diminuer de sa rapidité, courut tout le long d'Holborn. Il s'ouvrait un passage tantôt au milieu de la rue, tantôt sur le trottoir, tantôt dans le ruisseau, suivant l'endroit où il voyait le plus de chances d'avancer à travers la foule de voitures, d'hommes, de femmes et d'enfants qui encombraient cette longue rue et sans se soucier d'aucune espèce d'obstacle. Il ne s'arrêta pas une seule seconde tant qu'il n'eut pas atteint la porte de Gray's Inn. Cependant, malgré toute sa diligence, il y avait une bonne demi-heure et qu'elle était fermée. Lorsqu'il y arriva, et avant qu'il eût découvert la femme de ménage de M. Perker, laquelle vivait avec une de ses filles, mariée avec un garçon de bureau, non résident, qui demeurait à un certain numéro, dans une certaine rue, tout auprès d'une certaine brasserie, quelque part derrière Gray's Inn Lane, il ne s'en fallait plus que de 15 minutes que la prison fût fermée pour la nuit. Il était encore nécessaire de déterrer M. Lawton dans l'arrière-parloir de la pie et la souche, et Job lui avait à peine communiqué le message de Sam lorsque l'horloge sonna 10 heures. « Ah ah !» dit Lawton, « vous ne pourrez pas rentrer cette nuit, il est trop tard. Vous avez pris la clé des champs, mon ami. » « Ne vous occupez pas de moi, » répliqua Job, « je puis dormir n'importe où. Mais ne serait-il pas bon de voir M. Perker ce soir pour qu'il puisse faire notre affaire demain dès le matin ?»« Voyez-vous, » répondit Lawton, après avoir réfléchi pendant quelques instants, « si c'était pour toute autre personne, Perker ne serait pas bien charmé que j'allasse le relancer chez lui. Mais comme c'est pour M. Pickwick, je pense que je puis me permettre le cabriolet aux frais de l'étude pour l'aller trouver. » S'étant décidé à suivre cette marche, M. Lawton prit son chapeau, pria la compagnie de faire occuper le fauteuil par un vice-président durant son absence temporaire, conduisit Job à la place de voiture la plus voisine et, choisissant la plus rapide en apparence, donna au cocher cette adresse, Montague Place, Russell Square. M. Perker, ayant eu du monde à dîner, comme le témoignaient les lumières qu'on apercevait aux fenêtres, le son d'un piano carré perfectionné et d'une voix de salon perfectionnable qui s'échappait des mêmes fenêtres, et l'odeur un peu trop forte de victuailles qui remplissait les escaliers. Le fait est qu'une couple d'excellents agents d'affaires de province, étant venus à Londres en même temps, M. Perker avait réuni pour les recevoir une agréable société. C'était M. Snicks, le secrétaire du bureau d'assurance sur la vie, M. Prosant, le célèbre avocat, 3 avoués, un commissaire des banqueroutes, un avocat spécial du temple et son élève, petit jeune homme à l'air décidé, qui avait écrit sur les lois mortuaires un livre fort amusant, embelli d'un grand nombre de notes marginales. Enfin, divers autres personnages, aussi aimables et aussi distingués. Telle était la réunion que quitta le petit Perker lorsqu'on lui eut annoncé à voix basse que son clerc demandait à lui parler. Arrivé dans la salle à manger, il y trouva M. Lawton avec Job. Une chandelle de cuisine posée sur la table éclairait médiocrement les deux visiteurs, car le gentleman, qui, pour un salaire trimestriel, consentait à porter une culotte de peluche, entretenait pour le clerc et pour toute la boutique un mépris bien naturel et n'avait pas daigné leur donner d'autres luminaires. « Eh bien, Lawton, » dit le petit Perker en fermant la porte, « qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quelques lettres importantes arrivées dans un paquet ?»« Non, monsieur, mais voilà un messager de M. Pickwick. »« De Pickwick, eh ?» dit le petit homme, et se tournant vivement vers Job. « Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ?» Dodson et Fogg ont fait coffrer Madame Bardell pour les frais de son affaire, monsieur. Pas possible ! S'écria Perker en mettant ses mains dans ses poches et en s'appuyant sur le buffet. Il paraît qu'ils se sont fait donner par elle un cognovit aussitôt après le jugement. Par Jupiter ! s'écria Percœur en retirant ses mains de ses poches et en frappant emphatiquement sur le dos de la droite dans la paume de la gauche. « Par Jupiter, ce sont les gaillards les plus habiles que j'ai jamais rencontrés. » « Et les plus rusés que j'ai jamais connus, monsieur, » ajouta Lawton. « Je le crois bien, » fit Percœur. « On ne sait par où les prendre. » « C'est très vrai, monsieur, » répondit Lawton. Et tous les deux, alors, clairs et avoués, demeurèrent silencieux pendant quelques minutes, avec une physionomie animée, comme s'ils avaient été occupés à réfléchir sur l'une des plus belles découvertes qui ait jamais enorgueilli l'esprit humain. Lorsqu'ils furent revenus de ce transport d'admiration, Job Trotter se déchargea du reste de sa commission. Percœur hocha la tête d'un air pensif et, tirant sa montre, « Demain, à 10 heures précises, j'y serai, » dit-il. « Sam a tout à fait raison. Dites-le-lui de ma part. Voulez-vous prendre un verre de vin, Lawton ?»« Non, monsieur, je vous remercie. »« Vous voulez dire oui, je pense, » reprit le petit homme en prenant une bouteille et des verres. Comme, effectivement, Lawton voulait dire oui, il n'ajouta rien sur le même sujet, mais s'adressant à Job, il lui demanda à voix basse, assez haut cependant pour être entendu de Percœur, si son portrait, qui était pendu à côté de la cheminée, n'était pas étonnant de ressemblance. Nécessairement, Job répondit que oui. Puis, le vin étant versé, Lawton but à la santé de Mistress Percœur et de ses enfants, et Job à celle de M. Percœur. Cependant, le gentleman aux culottes de peluche, ne regardant pas comme une partie de son devoir de reconduire les gens de l'étude, et ne daignant pas répondre à la sonnette, nos deux messagers se reconduisirent eux-mêmes. L'avoué rentra dans son salon, le clerc dans sa taverne, et Job dans le marché de Covent Garden pour y passer la nuit dans un panier à légumes. Le lendemain matin, ponctuel à l'heure dite, le brave petit avoué frappa à la porte de M. Pickwick. Sam l'ouvrit avec empressement. « Monsieur Percœur, » dit-il à M. Pickwick, qui était assis près de la fenêtre dans une attitude pensive. Puis il ajouta, « Je suis bien content, monsieur, que vous soyez venu par hasard. J'imagine que le gouverneur a quelque chose à vous dire. » Percœur fit comprendre à Sam, par un coup d'œil d'intelligence, qu'il ne parlerait pas de son message, et lui ayant fait signe de s'approcher, il lui chuchota quelques mots à l'oreille. « Vraiment, monsieur, c'est-il possible ?» s'écria Sam en reculant de surprise. Percœur sourit et fit un geste affirmatif. Sam regarda le petit avoué, puis M. Pickwick, puis le plafond, puis le petit avoué sur nouveau frais. Il sourit, il éclata de rire tout à fait, et finalement, ramassant son chapeau, il disparut sans autre explication. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda M. Pickwick en regardant Percœur avec étonnement. « Qu'est-ce qui a mis Sam dans un état aussi extraordinaire ?»« Oh, rien, rien !» répliqua le petit homme. « Mais, mon cher monsieur, approchez votre chaise de la table, je vous prie, car j'ai beaucoup de choses à vous dire. »« Quels sont ces papiers ?» demanda M. Pickwick en voyant l'avoué déposer sur la table une liasse attachée avec de la ficelle rouge. « Les papiers de Bardell et Pickwick !» répliqua Percœur en dénouant la ficelle avec ses dents. Le philosophe fit grincer les pieds de sa chaise sur le carreau, se renversa sur le dossier, croisa ses bras et regarda son avoué avec un air sévère, si tant est que M. Pickwick put prendre un air sévère. « Vous n'aimez pas à entendre parler de cette affaire ?» poursuivit le petit homme, toujours occupé de son nœud. « Non, en vérité. J'en suis fâché, car ce sera le sujet de notre conversation et... »« Percœur ?» interrompit précipitamment M. Pickwick. « J'aimerais beaucoup mieux que ce sujet ne fût jamais mentionné entre nous. »« Bah, bah, mon cher monsieur !» répliqua l'avoué en défaisant sa liasse et en regardant son client du coin de l'œil. « Il est nécessaire que nous en parlions. Je suis venu ici exprès pour cela. Êtes-vous prêt à entendre ce que j'ai à vous dire, mon cher monsieur ? Ne vous pressez pas. Si vous n'êtes pas encore disposé, je puis attendre. J'ai apporté un journal, je serai à vos ordres quand vous voudrez. Voilà. » En parlant ainsi, le petit homme croisa ses jambes et parut commencer à lire le Times avec beaucoup de tranquillité et d'application. « Allons !» dit M. Pickwick avec un soupir, qui pourtant se termina en un sourire. « Dites tout ce que vous voudrez. C'est encore la vieille rengaine, je suppose. » « Avec une différence, mon cher monsieur, » répliqua Perker en fermant soigneusement le journal et en le remettant dans sa poche. « Madame Bardell, la demanderesse, est dans ses murs, monsieur. »«
Je le sais. »«
Très bien. Et vous savez comment elle est venue, je suppose. Je veux dire, pour quelle cause et à la requête de qui ?»«
Oui, c'est-à-dire que j'ai entendu la version de Sam à ce sujet, » répondit monsieur Pickwick, avec une indifférence affectée.
Je suis persuadé que la version de Sam était parfaitement correcte. Eh bien, maintenant, mon cher monsieur, voici la première question que j'ai à vous adresser. Cette femme doit-elle rester ici ?
Rester ici ? Répéta monsieur Pickwick.
Rester ici, mon cher monsieur, répliqua Perker en s'appuyant sur le dos de la chaise et en regardant fixement son client.
Pourquoi me demander cela à moi ? Cela dépend de Dodson et Fogg, vous le savez très bien.
Je ne le sais pas du tout, rétorqua M. Perker avec fermeté. Cela ne dépend pas de Dodson ni de Fogg. Vous connaissez les personnages aussi bien que moi, mon cher monsieur. Cela dépend entièrement et uniquement de vous.
De moi ? S'écria M. Pickwick en se levant par un mouvement nerveux et en se rasseyant à l'instant même.
Le petit homme frappa deux fois sur le couvercle de sa tabatière, l'ouvrit, prit une grosse pincée de tabac, referma la boîte et articula ces paroles.
« De vous seul !»«
Je vous dis, mon cher monsieur, » poursuivit l'avoué, à qui sa prise semblait donner plus de confiance, « je dis que sa libération prochaine ou son éternelle réclusion dépendent de vous et de vous seul. Écoutez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît, mon cher monsieur. » Et ne dépensez pas tant d'énergie, car cela n'est bon à rien du tout qu'à vous mettre en transpiration. Je dis, continua le petit homme, en établissant chaque proposition sur chacun de ses doigts, je dis qu'il n'y a que vous qui puissiez la retirer de cet abîme de misère, et que vous ne pouvez faire cela qu'en payant les frais du procès, ceux de la demanderesse et ceux du défendeur, entre les mains de ces requins de Freeman's Court. « Allons, mon cher monsieur, soyez calme, je vous en prie. » Pendant ce discours, le visage de M. Pickwick avait subi les changements les plus extraordinaires et il était évidemment sur le point de laisser éclater sa foudroyante indignation. Cependant, il calma sa rage comme il put et Perker, renforçant son argumentation par une autre prise de tabac, poursuivit ainsi qu'il suit. « J'ai vu cette femme ce matin. » En payant les frais, vous pouvez obtenir une décharge pleine et entière des dommages et ce qui sera pour vous, j'en suis sûr, un motif beaucoup plus puissant, une confession volontaire écrite par elle sous la forme d'une lettre à moi adressée et déclarant que, dès le commencement, cette affaire a été imaginée, fomentée et poursuivie par ces individus Dodson et Fogg, qu'elle regrette profondément d'avoir servi d'instrument pour vous tourmenter et qu'elle me prie d'intercéder auprès de vous pour obtenir que vous lui pardonniez.
« Si je paie les frais pour elle !» s'écria M. Pickwick avec indignation.
« Un merveilleux document, en vérité !»«
Il n'y a point de si dans l'affaire, mon cher monsieur !» reprit Perker d'un air triomphant.
« Voici la lettre même dont je parle. Elle a été apportée à mon étude ce matin à 9 heures par une autre femme, avant que j'eusse mis le pied dans la prison, avant que j'eusse eu aucune communication avec Madame Bardell, sur mon honneur. »
Le petit avoué choisit alors dans ses papiers la lettre en question, la posa devant M. Pickwick et se bourra le nez de tabac durant 2 minutes consécutives.
« Est-ce là tout ce que vous avez à me dire ? » demanda doucement M. Pickwick.
« Pas tout à fait. Je ne puis pas dire encore si la contexture du Comnovite et les preuves que nous pourrons réunir sur la conduite de toute l'affaire seront suffisantes pour justifier une accusation de captation contre les deux avoués.
Je ne l'espère pas, mon cher monsieur.
Ils sont sans doute trop habiles pour cela. Mais je dirais du moins que ces faits, pris ensemble, seront suffisants pour vous justifier aux yeux de tout homme raisonnable. Et maintenant, mon cher monsieur, voilà mon raisonnement. Ces 150 livres sterling, en nombre rond, ne sont rien pour vous. Les jurés ont décidé contre vous. Oui, leur verdict est erroné, je le sais. Mais cependant, ils ont décidé, selon leur conscience, et contre vous. Or, il se présente une occasion de vous placer dans une position bien plus avantageuse que vous ne pourriez le faire en restant ici. Car, croyez-moi, mon cher monsieur, pour les gens qui ne vous connaissent pas, votre fermeté ne serait qu'une obstination brutale, qu'un entêtement criminel. Pouvez-vous donc hésiter à profiter d'une circonstance qui vous rend votre liberté, votre santé, vos amis, vos occupations, vos amusements, qui délivre votre fidèle serviteur d'une réclusion égale à la durée de votre vie, et par-dessus tout, qui vous permet de vous venger d'une manière magnanime et tout à fait selon votre cœur, en faisant sortir cette femme d'un réceptacle de misère et de débauche, où jamais aucun homme ne serait enfermé si j'en avais le pouvoir, mais où l'on ne peut confiner une femme sans une effroyable barbarie. Eh bien, mon cher monsieur, je vous le demande, non pas comme votre homme d'affaires, mais comme votre véritable ami, laisserez-vous échapper l'occasion de faire tant de bien pour cette misérable considération que quelques livres sterling passeront dans la poche d'une couple de fripons, pour qui cela ne fait aucune sorte de différence, si ce n'est que plus ils en auront gagné de cette manière, plus ils chercheront à en gagner encore, et par conséquent, plus tôt ils seront entraînés dans quelque coquinerie qui finira par une culbute. Je vous ai soumis ces observations, mon cher monsieur, très faiblement, très imparfaitement, mais je vous prie d'y réfléchir. Retournez-les dans votre esprit aussi longtemps qu'il vous plaira, j'attendrai patiemment votre réponse. » Avant que M. Pickwick eût pu répliquer, avant que Perker eût pris la 20e partie de tabac qu'exigeait impérativement un si long discours, ils entendirent dans le corridor un léger chuchotement, suivi d'un coup frappé avec hésitation à la porte. « Quel ennui, quel tourment !» s'écria M. Pickwick, qui avait été évidemment ému par le discours de son ami. « Qui est là ?»«
Moi, monsieur, » répondit Sam en faisant voir sa tête.
« Je ne puis pas vous parler dans ce moment, Sam. Je suis en affaire. »«
Je vous demande pardon, monsieur, mais il y a ici une dame qui prétend qu'elle a quelque chose de très urgent à vous dire. »«
Je ne puis pas la voir, » répliqua M. Pickwick, dont l'esprit était rempli de visions de Mme Bardell.
« Je ne crois pas ça, » reprit Sam en secouant la tête. « Si vous saviez qu'est-ce qui est là, j'imagine que vous changeriez de note, » comme disait le Milan en entendant le rouge-gorge chanter dans la haie.
« Qui est-ce donc ?» demanda M. Pickwick.
« Voulez-vous la voir, monsieur ?» rétorqua Sam en tenant la porte entrouverte, comme s'il avait amené de l'autre côté quelque animal curieux.
« Il le faut bien, je suppose, » dit le philosophe en regardant Perker.
« Eh bien, alors, ça va commencer !» s'écria Sam. « En avant la grosse caisse !» « Tirez le rideau. Entrez les deux conspirateurs. »
En parlant ainsi, Sam ouvrit entièrement la porte et l'on vit apparaître M. Nathaniel Winkle, conduisant par la main la jeune lady qui, à Dingley Dell, avait porté les brodequins fourrés et qui, maintenant, formait un séduisant composé de confusion, de dentelle, de rougeur et de soie lilas.
« Miss Arabelle Allen !» s'écria M. Pickwick en se levant de sa chaise.
« Non, mon cher ami, Madame Winkle, » répondit le jeune homme en tombant sur ses genoux.
« Pardonnez-nous, mon respectable ami, pardonnez-nous. »
M. Pickwick pouvait à peine en croire l'évidence de ses sens et peut-être ne s'en serait-il pas contenté si leur témoignage n'avait pas été corroboré par la physionomie souriante de M. Perker et par la présence corporelle de Sam et de la jolie femme de chambre qui, dans le fond du tableau, paraissait contempler avec la plus vive satisfaction la scène du premier plan.
« Oh, monsieur Pickwick !» dit Arabelle d'une voix tremblante et comme alarmée de son silence. « Pouvez-vous me pardonner mon imprudence ?» M. Pickwick ne fit pas de réponse verbale à cette demande, mais il ôta précipitamment ses lunettes et, saisissant les deux mains de la jeune lady dans les siennes, il embrassa un grand nombre de fois. Un plus grand nombre de fois, peut-être, qu'il n'était absolument nécessaire. Ensuite, retenant toujours ses deux mains, il dit à M. Winkle qu'il était un coquin bien audacieux et lui ordonna de se lever. M. Winkle, qui, depuis quelques minutes, grattait son nez avec le bord de son chapeau d'une manière très repentante, se remit alors sur ses pieds, et M. Pickwick, après lui avoir tapé plusieurs fois sur le dos, donna une poignée de main pleine de chaleur au petit avoué. De son côté, pour ne pas rester en arrière dans les compliments qu'exigeait la circonstance, le petit homme embrassa de fort bon cœur la mariée et la jolie femme de chambre, puis, après avoir secoué cordialement la main de M. Winkle, compléta sa démonstration de joie en prenant une quantité de tabac suffisante pour faire éternuer, durant le reste de leur vie, une demi-douzaine de nez ordinaires. « Eh bien, ma chère enfant, dit M. Pickwick, comment tout cela s'est-il passé? Allons, asseyez-vous et racontez-moi votre histoire. » « Comme elle est jolie, père cœur !» continua l'excellent homme en examinant le visage d'Arabelle avec autant de plaisir et d'orgueil que si elle avait été sa propre fille. « Délicieuse, mon cher monsieur. Si je n'étais pas mariée moi-même, je vous porterais envie, heureux coquin !» dit Perker en bourrant dans les côtes de M. Winkle un coup de poing que ce gentleman lui rendit immédiatement. Après quoi, l'un et l'autre se mirent à rire aux éclats, mais non pas aussi fort que Samueller, car il venait de calmer son émotion en embrassant la jolie femme de chambre derrière la porte d'une armoire. « Sam !» dit Arabelle avec le plus doux sourire imaginable. « Je ne pourrai jamais assez vous témoigner ma reconnaissance. Je me souviendrai toujours de vos bons services dans le jardin de Clifton. »« Faut pas parler de ça, madame, » répondit Sam. « Je n'ai fait qu'aider la nature, » comme dit le docteur à la mère de l'enfant qui était mort d'une saignée. « Marie, ma chère, asseyez-vous, » dit M. Pickwick en coupant court à ses compliments. « Et maintenant, combien y a-t-il de temps que vous êtes mariée, hein ?» Arabelle regarda d'un air confus son seigneur et maître qui répondit « Seulement 3 jours. »« Seulement 3 jours ? Et qu'est-ce que vous avez donc fait pendant ces 3 mois-ci ? » « Ah oui, voilà la question !» interrompit M. Perker. « Comment pouvez-vous excuser tant de lenteur ? Vous voyez bien que le seul étonnement de Pickwick, c'est que cela ne se soit pas fait plus tôt. » « Le fait est, » répliqua M. Winkle en regardant la jeune femme qui rougissait, « le fait est que j'ai été longtemps avant de pouvoir persuader à Bella de s'enfuir avec moi. Et lorsque je suis parvenu à la persuader, il s'est passé longtemps avant que nous puissions trouver une occasion. D'ailleurs, Marie était obligée de prévenir 1 mois d'avance avant de quitter sa place et nous ne pouvions guère nous passer de son assistance. « Sur ma parole !» s'écria M. Pickwick, qui avait remis ses lunettes et qui contemplait tour à tour Arabelle et M. Winkle, avec l'air le plus épanoui que puisse donner à une physionomie humaine la bienveillance et le contentement. « Sur ma parole, vous avez agi d'une manière très systématique. Et votre frère est-il instruit de tout ceci, ma chère ?»«
Oh, non, non !» répondit Arabelle en changeant de couleur. « Cher monsieur Pickwick, c'est de vous seul qu'il doit l'apprendre. Il est si violent, si prévenu, et il a été si partial pour son ami monsieur Sawyer, que je redoute affreusement les conséquences. »
« Ah, sans aucun doute !» ajouta Perker gravement. « Il faut que vous vous chargiez de cette affaire-là, mon cher monsieur. Ces jeunes gens vous respecteront, mais ils n'écouteraient nulle autre personne. Vous seul pouvez prévenir un malheur. Des têtes chaudes ! Des têtes chaudes !» Et le petit homme prit une brise de tabac menaçante en faisant une grimace pleine de doute et d'anxiété. « Mais, mon ange, dit M. Pickwick d'une voix douce, vous oubliez que je suis prisonnier ?»«
Oh non, en vérité, je ne l'oublie pas. Je ne l'ai jamais oublié. Je n'ai jamais cessé de penser combien vos souffrances devaient être grandes en cet horrible séjour. Mais j'espérais que vous consentiriez à faire, pour notre bonheur, ce que vous ne vouliez pas faire pour vous-même. Si mon frère apprend cette nouvelle de votre bouche, je suis sûre que nous serons réconciliés. C'est le seul parent que j'ai au monde, monsieur Pickwick, et si vous ne plaidez pas ma cause, je crains bien de perdre même ce dernier parent. J'ai eu tort, très grand tort, je le sais !»
Ici, la pauvre Arabelle cacha son visage dans son mouchoir et se prit à pleurer amèrement. Le bon naturel de monsieur Pickwick avait bien de la peine à résister à ses larmes. Mais quand madame Winkle, séchant ses yeux, se mit à le câliner, à le supplier, avec les accents les plus doux de sa douce voix, il devint tout à fait indécis et mal à son aise, comme il le laissait voir suffisamment, en frottant avec un mouvement nerveux les verres de ses lunettes, son nez, ses guêtres, sa tête et sa culotte. Prenant avantage de ces symptômes d'indécision, M. Perker, chez qui le jeune couple était débarqué dans la matinée, rappela, avec l'habileté d'un homme d'affaires, que M. Winkle, senior, n'avait pas encore appris l'importante démarche que son fils avait faite, que le bien-être futur dudit fils dépendait entièrement de l'affection que continuerait à lui porter le dit M. Winkle, senior, et que cette affection serait fort probablement endommagée si on lui cachait davantage ce grand événement, que M. Pickwick, en se rendant à Bristol pour voir M. Allen, pourrait également aller à Birmingham pour voir M. Winkle, senior. Et enfin, que M. Winkle, senior, pouvant à juste titre regarder M. Pickwick comme le mentor et pour ainsi dire le tuteur de son fils, M. Pickwick se devait à lui-même de l'informer personnellement de toutes les circonstances de l'affaire et de la part qu'il y avait prise. M. Tuckman et M. Snodgrass arrivèrent fort à propos dans cet endroit de la plaidoirie, car comme il fallait bien leur apprendre ce qui était arrivé, avec les diverses raisons, pour et contre, la totalité des arguments fut passée en revue sur nouveaux frais. Après quoi, chaque personne présente répéta à son tour, à sa manière et à son aise, tous les raisonnements qu'elle put imaginer. À la fin, M. Pickwick suppliait, raisonnait, de manière à renverser ses résolutions et presque à troubler sa raison, prit Arabelle dans ses bras, déclara qu'elle était une charmante créature, que dès qu'il l'avait vue, il avait eu de l'affection pour elle, et ajouta enfin qu'il n'avait pas le courage de s'opposer au bonheur de deux jeunes gens et qu'il pouvait faire de lui tout ce qu'il voudrait. Aussitôt que Sam eut entendu cette concession, il s'empressa de dépêcher Job Trotter à l'illustre M. Pell pour lui demander la décharge dont M. Wheeler avait eu soin de le munir, dans la prévision que quelques circonstances inattendues pouvaient la rendre immédiatement nécessaire. Sam échangea ensuite tout ce qu'il avait d'argent comptant contre 25 gallons de porteur qu'il distribua lui-même dans le jeu de paume à tous ceux qui en voulurent tâter. Puis enfin, il parcourut la prison en poussant des hurrahs jusqu'à ce qu'il en eût perdu la voix, après quoi il retomba dans ses habitudes calmes et philosophiques. À 3 heures de l'après-midi, M. Pickwick quitta pour toujours sa petite chambre et traversa avec quelque peine la foule des débiteurs qui se pressaient autour de lui pour lui donner des poignées de main. Quand il fut arrivé aux marches de la loge, il se retourna et ses yeux brillèrent d'un éclat céleste, car dans cette foule de visages hâves et amaigris, il n'en voyait pas un seul qui n'eût été plus malheureux encore sans sa sympathie et sa charité. « Perker, dit-il au petit avoué, en faisant signe à un jeune homme de s'approcher. « Voici M. Jingle dont je vous ai parlé. »« Très bien, mon cher monsieur, répondit l'homme d'affaires en regardant Jingle d'un œil scrutateur. « Vous me reverrez demain, jeune homme, et j'espère que vous vous rappellerez durant toute votre vie ce que je vous communiquerai. » L'ex-comédien salua respectueusement, prit d'une main tremblante la main que lui offrait M. Pickwick et se retira. « Vous connaissez Job, je pense, » reprit notre philosophe en le présentant à M. Perker. « Oui, je connais le coquin, » répondit celui-ci d'un ton de bonne humeur. « Allez voir votre ami et trouvez-vous ici demain à 1 heure, entendez-vous ? Vous n'avez plus rien à me dire, Pickwick ? Rien du tout. Sam, vous avez donné à votre hôte le petit paquet que je vous ai remis pour lui ?
Oui, monsieur. Il s'est mis à pleurer et il a dit que vous étiez bien bon et bien généreux, mais qu'il souhaiterait plutôt que vous puissiez lui faire inoculer une bonne apoplexie, vu que son vieil ami, avec qui il avait vécu si longtemps, est mort, et qu'il n'en trouvera plus jamais d'autre.
Pauvre homme, dit M. Pickwick, pauvre homme. Que Dieu vous bénisse, mes amis.
Lorsque l'excellent homme eut ainsi fait ses adieux, la foule poussa une acclamation bruyante et beaucoup d'individus se précipitaient vers lui pour serrer de nouveau ses mains. Mais il passa son bras sous celui de Perker et s'empressa de sortir de la maison, infiniment plus triste en cet instant que lorsqu'il y était entré. Hélas, combien d'êtres infortunés restaient là après lui, et combien ils sont encore enchaînés. Ce fut une heureuse soirée, du moins pour la compagnie qui s'était rassemblée à l'hôtel de Georges et Vautour. Et le lendemain matin, il sortit de cette demeure hospitalière, de cœurs légers et joyeux, dont les propriétaires étaient M. Pickwick et Sam Weller. Le premier fut bientôt après déposé dans l'intérieur d'une bonne chaise de poste, et le second monta légèrement sur le petit siège de derrière.
« Monsieur !» cria le valet à son maître.
« Eh bien, Sam !» répondit M. Pickwick en mettant la tête à la portière.
« Je voudrais bien que ces chevaux-là soient restés 3 mois en prison, monsieur. »«
Et pourquoi cela, Sam ?»«
Ma foi, monsieur !» s'écria Sam en se frottant les mains, « c'est qu'ils détaleraient d'un fameux train !»